BW. Droits et libertés.
Les statistiques peuvent parfois mentir. En Hongrie, par exemple, les violences faites aux femmes qui sont recensées sont en deçà de la moyenne européenne. Et pourtant, la réalité est plus compliquée, comme nous allons le voir. Au programme également, une analyse de la colère sociale qui gronde en Iran, les raisons de la contestation, la répression féroce et ce que font ou non les puissances étrangères pour attiser ce conflit social. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Quand le prix de l'essence augmente tout à coup de plus de 50% dans un pays, ça fait des mécontents, notamment parmi les gens qui sont dépendants au quotidien de leur véhicule pour aller travailler, par exemple. Et quand ces personnes sont déjà frappées par une crise économique, qu'ils n'ont pas les moyens de vivre comme ils l'entendent, qu'ils se font du souci pour leurs enfants, la hausse du prix du carburant peut allumer la mèche du mécontentement et provoquer de grandes manifestations. Ça a été le cas en France avec les Gilets jaunes et en Iran il y a moins de 2 semaines. Évidemment, la situation dans les 2 pays n'a rien à voir, mais cette courte introduction pour rappeler qu'en Iran, si des habitants sont descendus si massivement dans les rues de plusieurs dizaines de villes du pays, c'est que leur colère couvait depuis un petit moment. Adnan Tabatabai, directeur du centre Carpo de recherche appliquée sur les relations avec l'Orient, basé à Bonn, en Allemagne.
En plus des 40 ans de la République islamique, le mécontentement s'est accumulé du fait de la difficulté pour les citoyens de se faire entendre par les dirigeants, du manque de droits, des violations des droits de l'homme, mais aussi de plus en plus du fait de la situation économique. La crise s'explique d'une part par la corruption, le népotisme, la mauvaise gestion, mais aussi, au moins autant, par les sanctions qui ont été imposées, surtout par les États-Unis, et qui posent de gros problèmes aux gens qui sont de plus en plus insatisfaits.
Ces sanctions touchent des secteurs vitaux de l'économie et donc, par ricochet, les consommateurs et les citoyens. Dans un rapport publié fin octobre, Human Rights Watch expose les résultats d'une enquête sur la pression maximum que subissent les Iraniens qui souffrent par exemple d'une pénurie de médicaments pour certaines maladies. Dans une centaine de villes d'Iran, des manifestations puis des émeutes ont donc démarré suite à la hausse du prix de l'essence. Lors de mouvements précédents, c'était l'annonce du budget qui avait mis le feu aux poudres ou les résultats de la présidentielle. Des stations-service ont été incendiées et des magasins pillés pour protester contre la hausse des prix. Les forces armées ont réprimé de façon brutale les manifestations qui ont commencé à la mi-novembre. Les autorités ont confirmé la mort de plusieurs personnes. L'ONU évoquait la semaine dernière plusieurs dizaines de morts et Amnesty International en a dénombré plus de 100. Raha Behreini, avocate des droits de l'homme en Iran, est membre d'Amnesty International.
Nous pensons qu'en réalité, il y a bien plus de victimes. Mais comme Internet est bloqué, beaucoup de familles ne peuvent pas recevoir d'informations sur la perte de leurs proches.
Amnesty International s'appuie pour ses décomptes sur des vidéos authentifiées et des témoignages directs ou indirects. Mais le nombre réel de personnes tuées ou arrêtées est très difficile à vérifier. C'est ce que reconnaît Adnan Tabatabai.
Malheureusement, il y a beaucoup de violence lors de ces manifestations. Parfois, certaines scènes rappellent davantage des combats de rue entre des citoyens et des forces de l'ordre que de véritables manifestations. Dans un État comme l'Iran, des pouvoirs publics ont tendance à penser que plus on réprime fermement ce type de mouvements sociaux, plus vite on en vient à bout. L'usage de la force permet d'éviter qu'une solidarité s'instaure avec les manifestants.
Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé une baisse des prix de l'essence, mais Internet est resté coupé dans la majeure partie du pays, quitte à ce que cela aussi soit dommageable à l'économie. L'ONG NetBlocks, qui milite pour un accès libre à Internet partout dans le monde, évalue à 1 milliard de dollars les pertes rien que durant les 3 premiers jours de la coupure. Mais il a semblé sans doute plus important aux autorités d'empêcher tout contact de la population avec l'étranger. plutôt que de prendre en compte des considérations économiques. Parce que le président Hassan Rouhani l'a répété, selon lui, ces manifestations sont orchestrées depuis l'Occident.
Les anarchistes qui sont sortis dans la rue étaient peu nombreux, mais ils étaient organisés, des anarchistes armés qui avaient tout prévu et qui s'appuyaient sur un complot que les réactionnaires de la région, les sionistes et les Américains avaient mis au point.
Dans un prêche retransmis à la télévision d'État, l'ayatollah Ahmad Khatami, qui est porte-parole de l'Assemblée des experts, a accusé aussi la France et l'Allemagne d'alimenter la contestation. Sans abonder dans le sens d'une théorie du complot, il faut bien reconnaître que certains groupes prêts à en découdre avec les forces de l'ordre existent vraiment dans le pays, selon Adnan Tabatabai.
Der Ursprung einer jeden Demonstration und einer jeden...
L'origine de toute manifestation en Iran est toujours un problème de politique interne qui part du mécontentement de la population, c'est indubitable. Cela dit, malheureusement, comme on l'avait vu lors des manifestations de 2018, qui avaient donné lieu à des scènes comparables, il y a eu une infiltration des manifestants légitimes par des groupes qui veulent se battre.
Ist natürlich die Infiltrierung legitimer Proteste durch gewaltbereite Gruppen.
Il est compliqué d'établir des listes sûres, mais il y a des rapports qui montrent combien les services de renseignement saoudiens, des Émirats arabes unis, israéliens ou américains investissent pour déstabiliser l'Iran. Ces rapports sont accessibles librement dans des médias dignes de confiance, comme le Washington Post ou le New York Times. Et on peut y lire les sommes d'argent importantes qui arrivent en Iran pour financer la déstabilisation du pays par des campagnes médiatiques ou le financement de groupes violents.
Ce qui, ajoute le chercheur, ne légitime en aucune façon le recours à une force excessive par les autorités.
Le nombre de gens qui sont actuellement dans la rue n'est pas énorme en comparaison de la population totale qui est de 80 millions d'habitants. On se souvient de janvier 2018, il y avait à peine 100 000 manifestants à travers le pays. Mais même si ce ne sont que quelques dizaines de milliers, il faut les prendre au sérieux et surtout les traiter convenablement. Mais il faut avoir des chiffres en tête pour comprendre la véritable portée politique de ce mouvement.
Pour éviter la propagation de la colère, les autorités iraniennes ont annoncé le versement de plusieurs dizaines de millions de dollars à des citoyens, en plusieurs fois, juste comme ça, une allocation pour faire face à la hausse des prix. Mais certains contestataires interpellés au plus fort des manifestations encourent désormais la peine de mort. La dernière fois qu'une étude sur les violences faites aux femmes a été menée à l'échelle européenne, c'était en 2014. Une étude menée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vous trouverez un lien sur notre site internet. Dans le classement final, la Hongrie était plutôt bien placée, mieux que l'Allemagne ou la Suède d'ailleurs. Mais plusieurs ONG affirment que ces résultats ne reflètent pas vraiment la réalité, qu'il y a encore de nombreux efforts à faire en la matière, en Hongrie comme dans les autres pays. En Hongrie, la dépose de plaintes est assez rare. De nombreuses victimes sont dissuadées par la police de faire un signalement, alors même que souvent, une plainte débouche en Hongrie sur une condamnation. Il y a 10 ans, seuls 70% des agressions faisaient l'objet d'une plainte en règle. Et d'après les associations qui travaillent dans le secteur, la situation n'a pas beaucoup évolué. Le pouvoir en place actuellement en Hongrie est peu propice à l'essor des études sur le genre ou à la promotion des droits des femmes. Les responsables politiques estiment souvent, du fait même des bons résultats du pays dans l'étude européenne, que les violences à l'égard des femmes ne sont pas vraiment un problème de société. Ainsi, il n'y a pas de statistiques officielles sur la question, mais les ONG continuent de veiller au grain. Des associations militent pour que la Hongrie ratifie le traité d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, arguant que l'année dernière, 27 femmes ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-conjoint en 8 mois seulement. Une femme hongroise sur 5 vit dans une relation où elle subit des violences physiques de la part de son partenaire. C'est pourquoi Judith Wirth réclame que l'impulsion vienne du haut. Elle milite au sein de l'ONG NANE, qu'on pourrait traduire par « les femmes pour les femmes contre la violence ».
Déjà, si les lois en vigueur étaient vraiment appliquées, la situation serait bien meilleure.
Erika Renner a été attaquée, droguée, mutilée par son ex-amant. La procédure pénale a duré 6 ans et sans son intervention, les accusations auraient été entièrement retirées. Elle reproche aux autorités leur manque d'empathie et de prise en compte des victimes.
Ils m'ont traité comme si je faisais partie du paysage. J'étais devenue un objet dans ma propre affaire. On ne me parlait que de mes devoirs, l'obligation de témoigner, de dire la vérité. Le système judiciaire ne s'intéressait pas du tout à moi comme un être humain.
Judith Wirth, elle ne veut pas rejeter la faute sur les magistrats, la police ou la société. Selon elle, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est un métier à part entière de lutter contre les violences faites aux femmes. Les gens qui travaillent dans d'autres domaines ne sont pas du tout formés. C'est pour ça que ça se passe comme ça au quotidien.
Les autorités hongroises ont abandonné la sensibilisation aux droits des femmes qui faisait partie avant de la formation de base des policiers et des juges pour leur apprendre à se comporter comme il faut avec des femmes en danger. Suite à la crise des migrants, le pouvoir a décidé que l'idéologie transportée par ces ONG était hostile à l'État. Merci à Adnan Tabatabai du Centre de recherche CARPO à Bonn pour podcaster Droits et Libertés. Allez faire un petit tour sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.